I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, épisode spécial d'été où on va parler d'un sujet spécifique. On parle pas d'actu aujourd'hui, mais ça revient très vite, pas d'inquiétude. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre de l'épisode, on va vous parler de personnes et de méthodes pour fabriquer des effets spéciaux. Alors évidemment, c'est un sujet qui est éminemment tech, puisque c'est le numérique qui permet tout ça, et c'est un sujet qu'on connaît tous, qu'on côtoie tous au quotidien, que ce soit dans les jeux vidéo, ou dans les films, ou dans les séries, c'est utilisé absolument partout, mais on ne sait pas forcément, d'une part, comment c'est fait, ce qui est intéressant bien sûr, mais également ce que ça implique, ce que sont les métiers de ce domaine, ce qu'ils nécessitent, ce qu'ils veulent dire pour les personnes qui travaillent dans ce milieu au quotidien, et tous ces détails-là qu'on va essayer d'explorer un petit peu dans l'épisode d'aujourd'hui. Et pour m'aider à accomplir cette tâche titanesque, j'ai deux personnes éminemment qualifiées, puisque directement de Dwarf Animation Studio, tu vois, vous voyez comme je le dis en anglais, à l'anglaise, on a Romain Viala et Sylvain Trella. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour Patrick.
Salut Patrick, ça va bien,
ça
merci
va très
beaucoup.
Bien, merci, ouais. Merci de nous recevoir dans ton émission.
Eh ben écoutez, c'est avec grand plaisir. Comme je le disais, vous faites partie du studio d'animation Dwarf, qui est un studio, j'allais dire parisien, mais tout à coup j'ai un doute.
Pas du tout, Montpellierin.
Pas du tout. Mais dans c'est le marrant, les meilleurs métiers de l'Internet sont dans le Sud, en fait. Hein. Tout le monde s'est fait appeler. Et on va parler avec vous de vos métiers. Dans un instant, je vais vous demander de vous présenter. Juste avant ça, je voudrais quand même continuer à remercier les Patriotes, puisque ces épisodes spéciaux sont également produits grâce à leur soutien. Et je voudrais remercier aujourd'hui spécifiquement Lincoln Howard, Urbi Gaël Rive, Pierrick Blanchet, Aldressus, Elliot, Stéphane Faure, E. Rudel, Damien et Priyank. Un grand merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Si vous vous retrouvez un petit peu avec un peu de temps libre sur la plage ou dans la chaleur parisienne ou ailleurs, hein, en France ou même dans le reste du monde, vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Ça prend 2 minutes et ça nous permet de continuer à faire cette émission qui, j'espère, vous apporte un petit peu dans vos moments de temps libre ou de transport ou de ménage, ce genre de choses. Et donc, je remercie ces patriotes. Du coup, je remercie également Romain, qui fait partie de la formidable équipe des patriotes.
Donc, ah oui, oui, oui.
Donc, mais voilà, écoutez, lançons-nous dans le cœur du sujet tout de suite. La première question que j'ai envie de vous poser pour que les auditeurs sachent un petit peu vous situer, c'est qu'est-ce que vous faites dans ces métiers, et puis un petit peu, quel est votre parcours, comment on fait pour rentrer dans les métiers de la conception 3D, des effets spéciaux, on va dire les effets spéciaux pour faire simple. Romain, je vais te donner la parole en premier.
D'accord. Alors, Romain, je fais du layout. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que c'est après. Je suis superviseur, chef d'équipe. Mon parcours, j'ai fait du cinéma. J'ai appris le cinéma traditionnel, on va dire live action. Après, j'ai fait un autre métier. J'étais instit, et ensuite le cinéma me manquait trop. Donc, j'ai refait une formation en 3D. Et du coup, je suis tombé dans le cinéma d'animation et le layout, en fait. Comment dire, on place les caméras et on place les décors, les personnages, les objets, et du coup surtout les caméras. Et du coup, ça a un lien direct avec le cinéma traditionnel. Donc ça fait le lien avec tout ce que j'avais appris avant, en fait.
Voilà. C'est un peu, il y a deux choses très très claires. Il y a deux choses que je retiens dans ce que tu dis. D'une part, j'ai l'impression que comme dans tous ces métiers jeunes, web design dans une certaine mesure, jeux vidéo, etc., il y a souvent des gens qui ont des parcours peut-être un petit peu atypiques parce que tu as fait une formation finalement, mais ce n'était pas ce métier auquel tu t'étais formé à la base. Et puis, tu as fait différentes choses entre-temps. Et puis, l'autre chose que je retiens, c'est qu'effectivement, dans la... Bon, d'une part, vous faites beaucoup d'animation en images de synthèse. C'est marrant, je dis images de synthèse, j'ai l'impression de retomber dans les années 90. C'est un terme qu'on n'emploie plus trop. Mais c'est très proche. Il y a des éléments de ces métiers, on va en parler, qui sont très proches. J'ai l'impression d'entendre de la mise en scène, en fait. Le placement des caméras, c'est vraiment une question de mise en scène, sauf qu'elle est complètement virtualisée et que tu peux mettre c'est ta ça. Caméra où tu veux, quoi.
Exactement, et puis faire les mouvements que tu veux, et voilà, changer les focales, enfin vraiment comme une vraie caméra normale, j'ai envie de dire traditionnelle pour le cinéma, quoi.
On parle de focales de la même manière que dans le cinéma, sauf qu'elles sont virtuelles, mais on utilise le terme focale.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais, très intéressant.
Et c'est en millimètres, c'est exactement les mêmes rapports en fait, sauf qu'effectivement c'est virtuel, mais c'est exactement la même chose.
Alors Sylvain, toi tu fais de l'éclairage, du rendu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ton parcours et sur ton métier ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Sylvain. Moi j'interviens un petit peu plus loin dans la chaîne de production. Donc je suis chef éclairagiste, donc lead lighting, et j'ai en charge de mettre en place des on va appeler des sets d'éclairage pour venir recréer une ambiance de lumière par rapport aux scènes que l'on récupère de l'équipe de Romain, qui passe entre-temps dans les mains de l'équipe d'animation. Donc, mon travail, voilà, c'est par rapport au client, ce qu'il va nous donner comme cahier des charges, ce qu'on appelle un color script, on va devoir recréer une ambiance d'éclairage par rapport à une timeline ou un lieu spécifique. Donc, par exemple, on va retrouver de l'éclairage d'intérieur, ambiance jour, ambiance nuit, des scènes d'extérieur en coucher de soleil ou sous la pleine lune, etc. Donc voilà, on a ce cahier des charges, plus après une certaine liberté artistique pour arriver à matcher avec ce qu'on nous demande. Donc des fois c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, mais c'est un métier très 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 intéressant et qui se rapproche énormément des métiers d'éclairagiste sur plateau de tournage de films de cinéma
traditionnel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je veux te demander également de nous dire un mot sur ton parcours, mais immédiatement moi ce à quoi ça me fait penser, c'est le métier de chef opérateur qui est responsable de la lumière et donc de l'ambiance. Un truc dont on se rend pas forcément compte quand on parle de lumière dans le cinéma et dans l'animation et dans tous ces métiers, dans la photo, c'est que c'est instinctivement évident, mais on n'y pense pas forcément. La chose qu'on voit, c'est de la lumière. La raison pour laquelle on voit une image, c'est la lumière qui se reflète et qui se réfracte et qui voyage entre les objets qu'on voit et notre rétine. Et donc, la lumière, en fait, c'est, on va pas dire que c'est tout le travail sur l'image, mais c'est une immense partie de ce qu'on voit, et on peut changer une image quasiment du tout au tout en changeant la lumière. En tout cas, on change énormément l'ambiance. Et ça, c'est une chose qu'on entend énormément dans le cinéma classique, physique. Et c'est marrant que ça s'applique aussi au rendu en 3D. Tu peux nous dire un petit mot sur ton parcours, donc ?
Au niveau de la formation, j'ai fait une école de 3D qui est située à Montpellier, que je salue, Objectif 3D. Donc, un parcours assez classique en 3 ans avec une formation, une prépa, pour apprendre vraiment toutes les bases du dessin, l'histoire de l'art, du cinéma, vraiment poser les bases de notre métier. Et puis après, derrière, 2 années à me spécialiser vraiment dans l'éclairage, comprendre les techniques d'éclairage, étudier la photographie, les directeurs photos, le travail abordé sur certains films et pourquoi pas sur d'autres. Voilà, et puis une fois sorti de formation, il n'y a plus qu'à mettre les mains dedans, et puis au final, on est continuellement en formation. Il y a vraiment la formation théorique. Et puis, bah, là, ça fait déjà 7 ans que je suis sorti de formation, mais j'en apprends vraiment tous les jours, quoi.
Est-ce qu'il y a des gens, que ce soit dans vos métiers ou dans les autres métiers qui existent dans vos studios, je pense à ceux qui font de la modélisation, de l'animation ou même de la production. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris sur le tas, qui sont pas passés par une école, qui se sont retrouvés à télécharger un logiciel de modélisation un jour, qui ont essayé de bidouiller un petit peu et puis au bout de quelques années, ils ont tenté de faire des choses. Ça existe, les gens qui ont appris sur le tas encore ou plus trop ?
C'est très, très rare.
Il y en a encore, mais ça devient de plus en plus rare. Ouais.
C'est très, très rare parce que les logiciels, etc., sont très spécialisés. Si on prend le logiciel qu'on utilise majoritairement dans l'industrie, c'est Maya de chez Autodesk. C'est un logiciel qui a, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de boutons et de fonctions. Donc, je ne plaisante pas, hein, c'est vrai. Ouais. Donc c'est vraiment énorme. Et puis il y a des choses qu'on apprend vraiment en production quand on a un vrai boulot dans un studio ou quoi, alors qu'en formation on apprend effectivement des bases, mais on apprend, comme disait Sylvain, tellement plus sur
en
place
faisant, quoi,
quand on a les mains dans le cambouis, quoi, voilà.
Ouais, je comprends. D'accord, c'est marrant parce que moi j'ai cette image peut-être un petit peu obsolète, des gens qui rentrent dans ces métiers en ayant, comme je dis, bidouillé dans leur chambre avec leur Amiga 500 pendant des années. J'exagère évidemment, mais à peine. Mais ceci dit, j'ai des amis ou un ami qui a fait qui a réussi par ce biais, mais il s'est lancé il y a déjà 10 ans. Peut-être que c'est maintenant les choses sont différentes et.
C'est ça prend beaucoup plus de temps à comprendre les logiciels, les manières de travailler, etc. Et puis en plus, pour calculer une image, il faut des machines de plus en plus puissantes. Alors même si les capacités, enfin les machines sont de plus en plus puissantes, les machines personnelles sont de plus en plus puissantes, mais c'est quand même, pour faire un court-métrage ou quoi, c'est extrêmement difficile ou ça prend énormément de temps de faire ça chez soi avec son petit PC à la maison, quoi.
Alors justement, on a commencé à en parler. Il y a des logiciels et des matériels qui sont un petit peu particuliers. Mine de rien, Maya, on peut le télécharger sur son PC demain. N'importe qui peut télécharger Maya. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez sur des PC normaux uniquement avec Maya ? Est-ce qu'il y a des logiciels particuliers ? Je voudrais savoir pour les geeks dans l'audience. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel et comme logiciel ? Est-ce que c'est des trucs qu'on a à la maison ? Tu l'as un peu évoqué, ou des trucs vraiment particuliers, vraiment spécifiques ?
Ça peut être des trucs qu'on a à la maison, ça dépend ce que tu fais, en fait.
Ça dépend la spécialisation, enfin le corps de métier que que tu exerces. Ouais. Pour ma part, par rapport à Romain, j'utilise un ordinateur beaucoup plus puissant, puisque je suis en charge de calculer des images, donc ça me prend énormément de ressources. Enfin, j'ai un ordinateur avec de gros processeurs, et qui plus est, j'ai aussi des écrans calibrés avec une colorimétrie particulière qui est propre au projet auquel nous travaillons. Donc sur chaque projet, il va y avoir une colorimétrie, et donc on utilise aussi des écrans qui prennent énormément de ressources au niveau de la carte graphique. Donc là, c'est pareil, il faut avoir un ordinateur qui suit.
Quand, ça me donne l'occasion, pardon, excuse-moi, juste de te poser une question sur l'écran d'Apple, le fameux écran, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui coûte genre 5 000 euros parce qu'il a une colorimétrie très fidèle et ce genre de choses qui est vraiment pour les pros, et qui était à un prix moins élevé que les écrans équivalents. Je sais que les Sony, il y a des Sony qui sont très prisés. Est-ce que tu as suivi un petit peu cette histoire ? Est-ce que c'est effectivement un matériel qui est intéressant malgré son prix exorbitant pour les professionnels, ou est-ce que tu n'as pas du tout suivi cette histoire ?
Ouais, pour être honnête, je n'ai pas du tout suivi cette
histoire. D'Apple, d'accord.
Mais, pas du tout.
Mais du coup, ma question, je la retourne. Un écran, ce que tu utilises avec cette colorimétrie très fidèle, ça coûte combien pour un écran ?
Là, je pense que les écrans que l'on utilise, les écrans calibrés, on est bien sur une fourchette entre pour donner une fourchette un peu plus large, je pense entre 3 et 5 000 euros. Ouais.
D'accord. Ouais. Donc même les écrans de gamers qui coûtent 1 000 euros avec leurs trucs spéciaux, ce n'est pas du tout le genre de truc que vous utilisez. Vous utilisez du matériel dédié, quoi.
Là, ouais, on est vraiment sur une gamme au-dessus, voilà, qui est déjà réservée, je pense, voilà, pour les professionnels de l'image, avec des tailles d'écran qui sont quand même aussi assez, assez conséquentes. Là, je sais pas qu'on est sur...
Du 32 sur pouces, ce genre de choses.
25-30 pouces, ouais.
Ouais, ouais, au minimum, d'accord. 30 pouces, ouais.
Ouais, d'accord.
Alors, pour te donner, j'ai quelques chiffres un peu sous la main pour te donner un ordre d'idée. Là, on a des machines d'artistes avec 64 gigas de RAM.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Tu vois déjà rien que ça classe le bonhomme. Des CPU avec 3,5, 3,6 gigas, 12, 18 cores. Voilà, à peu près, hein, pour te donner.
Mais on est vraiment dans ce type de travaux, de travail qui touche à l'image et au rendu. On est vraiment dans le dernier bastion des machines aussi puissantes que possible. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité de puissance qu'on peut obtenir sur la machine du moment, vous allez en prendre autant que possible parce que ça va faciliter d'autant plus votre travail et accélérer d'autant plus votre travail. Et du coup, ça se retrouve, j'imagine, dans des questions de production. C'est-à-dire que si vous travaillez 20% ou 10% plus vite, bah, ça va vous faire gagner 10% ou un peu moins, mais de temps de production et donc de coûts, quoi. C'est ça.
Et d'argent, c'est surtout ça.
Oui, bien
ça,
sûr, je parle de coûts, c'est ça. Ça va coûter moins cher. Les budgets vont être... Ouais, c'est ça.
Là, il y a un ratio permanent entre le temps humain et temps machine. C'est vraiment le... C'est le ratio dans notre métier, voilà, le rapport entre temps humain, temps machine.
Et tu parles des rendus ?
Pour le rendu, ouais, dans notre partie, c'est voilà, combien de temps une personne va passer sur chaque plan et combien de temps ça va prendre pour calculer ce plan en question. Donc, il faut toujours faire un ratio. Le meilleur ratio, c'est de passer très peu de temps sur le plan et qu'il sorte le plus vite possible. Voilà, clairement.
Eh oui. Non, évidemment. C'est pas de l'esclavage.
Mais du coup...
Et en plus, ouais. Pour calculer les images, en plus, on a une ferme de rendu.
Bien
c'est
sûr.
Pas que nos machines qui calculent tout ça. Et là, alors là, on est à des machines qui ont 256 gigas de RAM, par exemple.
Ouais. C'est vraiment
32 cores, 40 cores, etc. Donc,
c'est vraiment des racks, pour le coup, dans la pièce d'à côté qui est air conditionnée.
Exactement.
D'accord. Et là, on part à des coûts qui sont des coûts de serveurs qui sont beaucoup plus élevés que les machines traditionnelles, on le comprend bien. Au niveau des logiciels, on parle de Maya, il y a d'autres logiciels spécialisés de ce type, c'est des logiciels professionnels, quoi.
Oui. Bah nous, on utilise Maya, c'est un standard dans la profession, enfin dans l'industrie. Après, il y a aussi des logiciels comme 3ds Max, qui sont souvent plus utilisés pour le jeu vidéo, d'ailleurs, mais c'est Autodesk aussi, mais il y a aussi d'autres logiciels, il y a Claris, EFX, qui est d'ailleurs montpelliérain aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y en a plein, il y a Blender aussi, il y a des films qui sortent faits via Blender, qui là, pour le coup, est totalement gratuit, open source, etc. Puis voilà, puis après, il y a des logiciels propriétaires aussi,
exactement,
dont
voilà.
Là, le moteur de rendu qu'on utilise pour la lumière, et là, je laisse Sylvain.
C'est ça, voilà. Ouais, à Dwarf, on utilise un logiciel propriétaire pour tout ce qui est partie de l'éclairage et du rendu. Donc, après, ça, c'est un choix politique, une stratégie par rapport à la différence entre un logiciel propriétaire et un logiciel comme Autodesk Maya, c'est que on peut développer. On a cette souplesse de développement qu'on ne va pas retrouver sur des logiciels non propriétaires.
D'accord. Donc, il y a un peu moins de facilité. Vous prenez le logiciel qui est déjà fait et voilà, mais vous pouvez adapter le rendu à ce que vous voulez et ce qui n'est pas forcément autant possible avec un logiciel qui est déjà fait, quoi.
Il y a plus de bride, oui.
Ouais. Du coup, j'ai une question qui est en rapport avec tout ça, qui est, je suis sûr, à naviguer dans les esprits des auditeurs. Typiquement, le rendu le plus rapide et le rendu le plus long. Où est le delta ?
Honnêtement, là, sur le projet que l'on travaille actuellement, je pense que la moyenne sur une image, on va tourner aux alentours de 30, un peu plus de 30 minutes l'image.
Pour une image
l'ensemble. Pour une image, oui.
Ah oui, d'accord, quand même.
Et c'est encore... Et ça reste
une moyenne basse, ouais.
Une moyenne basse, voilà. On peut avoir des images qui peuvent aller beaucoup plus vite. Par exemple, il n'y a pas de décor, un seul personnage sans poils ou sans cheveux, ça peut aller très vite. Mais il y a des images qui peuvent prendre énormément de temps. On peut parler en heures, hein. On peut parler largement en heures, quoi.
Et on ne fait que de la série télé.
Ouais.
Le film, parce que là on est sur des images 2K, je crois, hein, c'est ça, hein, pour la série télé. Alors que si on passe au cinéma, on va passer sur du 4K, voire du 8.
Plus la résolution est élevée, c'est exponentiellement plus long à calculer.
Exactement.
Pour un film, un blockbuster, où il y a une grosse scène en image de synthèse, je vais m'accrocher au terme, une grosse scène en image de synthèse, dont la majorité est en image de synthèse, vous pensez qu'une image de cette scène, ça peut prendre combien de temps à calculer quand c'est un gros, gros truc ?
Bon, je pense qu'on peut être entre 8 à 12 heures l'image, je pense.
D'accord. Oui, non, mais c'est incroyable, parce que si on a un film de 2 heures dont la moitié contient des images de synthèse, 60 minutes dont chaque seconde prend 24 images minimum, ça devient tout de suite... On n'a juste pas le temps. Alors ensuite, il y a peut-être très certainement des studios qui utilisent plusieurs studios d'animation différents, qui vont un petit peu partout dans le monde, mais... Bon, c'est intéressant à constater.
C'est ça. Après, les calculs d'images peuvent se faire en parallèle. Tu peux calculer 15 images en même temps, ou même plus, suivant la capacité de ta ferme de rendu aussi, quoi.
Ouais, d'accord. T'es pas limité à faire une seule image en même temps. Oui. J'imagine qu'il y a des studios. Non.
Heureusement, parce que sinon, le film mettrait 15 ans à se faire. Donc,
c'est ça. Ça serait très long. Mais du coup, j'ai l'impression, en parlant des studios partout dans le monde, en explorant un petit peu plus cette industrie, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement des studios d'animation un peu partout dans le monde, mais j'ai aussi l'impression qu'en France, on en a quand même pas mal et qu'on est assez bien représenté, et que les studios hollywoodiens font souvent appel à des boîtes françaises, avec plus ou moins de discrétion, pour leur travail sur les gros blockbusters, justement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on a un écosystème assez vivant d'animation en France, ou c'est une impression que j'ai ?
Non, ce n'est pas une impression. On a déjà de très bonnes écoles en France.
Oui, pour commencer, oui.
Donc, ah oui, ça commence là.
On a déjà des très bons artistes qui s'exportent partout. Les Français sont demandés, faut le savoir. Et puis après, on a aussi un certain savoir-faire, une certaine déjà du dessin animé 2D classique, on va dire. Et puis même en 3D, on a été un petit peu à la traîne au début. Et puis après, on a vite rattrapé notre retard. Mais on a quand même beaucoup de studios. Illumination, par exemple, Les Mois Moches et Méchants, etc., c'est français, c'est fait en France, même si ça a été racheté par une boîte américaine, mais ça reste quand même fait en France. On a un studio, enfin, il y a des studios à Toulouse, par exemple, TAT.
Micros aussi,
Micros Animation.
Les films Astérix d'animation.
Voilà, Astérix, exactement. Donc, c'est quand même des productions de grande qualité par rapport à d'autres studios dans le monde. Alors, je ne veux pas cracher dessus, hein, je ne veux pas faire de
chauvinisme malvenu, ouais.
Voilà, de chauvinisme mal placé.
Non, mais on peut être fier de notre.
En Inde, il faut être fier, mais il y a des studios en Inde, par exemple, qui font plus de la quantité que de la qualité.
D'accord.
Donc après, ça dépend de ton budget, ça dépend de la qualité que tu veux à la fin de ton produit.
Je pense aussi surtout que la patte artistique française plaît beaucoup à l'international. Je pense que ça reste quand même, on fait des métiers artistiques, et comme tout métier artistique, il y a une patte, un savoir-faire français qui, je pense, plaît à l'international et qui fait que l'animation française s'exporte très bien.
D'accord. Bah, du coup, j'aimerais rentrer un petit peu plus dans les détails du processus. Si moi, Patrick Béja, je vous dis, écoutez, j'ai un super concept, je viens vous voir chez Dwarf, j'ai un super concept, je vais faire Rendez-vous Tech, le film. Et donc, j'ai mon scénario, et à partir de là, on fait quoi ? Comment ça se passe pour partir du script et arriver à un film d'animation complet ? Quelles sont les différentes étapes ? Alors, on va résumer, hein, bien sûr, mais... Essayez de m'expliquer ça.
Alors, on va déjà écrire le scénario, les dialogues, etc. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire une espèce de BD un petit peu de des différents plans qu'il va y avoir dans chaque séquence, dans chaque moment du film. On va ensuite en créer une animatique, c'est-à-dire que ça va être un storyboard animé pour avoir des timings précis de position de personnage, de moment de course, de voilà, enfin les différentes actions qui vont déterminer la longueur du film.
Ça, jusque-là, on est vraiment dans une dans un système qui est comparable à celui d'un film classique, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Là, tout ça, c'est vraiment film classique, pré-prod de film classique. Et ensuite, c'est là où moi, j'interviens en tant que le layout, c'est-à-dire que moi, je récupère ce storyboard animé et je vais mettre ça en place en 3D. Alors avant, il y aura eu une étape préparatoire qui s'appelle la modélisation.
L'assétisation,
oui. Assétisation, enfin, donc on va créer tous les personnages en volume, donc en 3D, et puis enfin, les personnages, les décors, les objets, etc.
Mais tout ça de manière un peu grossière pour que tu puisses faire ton début de travail, ou c'est pas tout de suite que vous allez dans les détails maximum, si ?
Les deux. Plus on a de détails, mieux c'est, par rapport aux formes, par rapport aux silhouettes.
Tout se fait en parallèle.
D'accord. Voilà, y a pas donc mal là, de en fait, à partir du moment où vous avez eu l'animatique, donc le storyboard animé, vous allez lancer le travail classique, le travail général du début de...
Même avant, enfin, par rapport à la création des assets, des objets, des personnages, etc., ça se fait déjà même en amont quand il va y avoir les concept art, donc les dessins préparatoires qui vont déterminer tout ce qui est le look, en fait, des personnages, des objets, etc. Donc là, on a des dessins de plus en plus précis qui vont permettre de créer les objets, les personnages, les décors. Et puis ensuite, on va les mettre en place un peu comme des Lego, des Playmobil, et puis on va mettre les caméras. Ensuite, les animateurs vont passer par-dessus pour animer les personnages et les objets, leur donner vie. En parallèle de ça, il y a aussi toute l'étape qu'on appelle le surfacing, c'est-à-dire on va mettre toutes les textures, les couleurs, la matière.
Définir la matière et les textures des objets et des personnages. Voilà.
Du coup, je passe la main à Sylvain, parce qu'après, c'est son
voilà,
domaine,
donc,
après l'animation.
Voilà, il faut se dire que tout ça se monte en parallèle. Donc, l'assétisation, toute la création des personnages va se faire au fur et à mesure. Ça va être updaté au fur et à mesure dans les scènes de Romain, qui va à son tour transmettre ces scènes aux animateurs, qui, eux, vont récupérer les squelettes animés pour les personnages. En parallèle, il y a d'autres personnes qui vont créer à faire les poils, les cheveux, en parallèle avec les gens qui définissent la texture et les matières. Et à cette étape-là...
Je précise encore, vous avez évoqué à plusieurs reprises les cheveux. Il faut savoir que l'animation, il y a différents types d'éléments qui ont différentes propriétés et différentes difficultés à modéliser. Les cheveux sont toujours, et les poils sont toujours quelque chose d'un petit peu plus compliqué que... ça dépend ensuite du niveau de détail et du style qu'on va avoir, mais les cheveux et les poils, c'est toujours un peu compliqué. Les liquides, la fumée, les particules, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et tout ça, c'est des choses qui sont... des spécialités, au final, chacun un petit peu sa...
C'est ça.
Ouais.
Chacun a sa spécialité, sa tâche à accomplir pour au final, on sert tous le même but, l'image finale qui sera diffusée soit à la télé, soit au cinéma.
C'est-à-dire que quand je vois, moi, dans mon film préféré de Marvel, Captain America... qui est en fait un Captain America modélisé en 3D. Il y a une personne qui a fait le corps, une autre personne différente qui a fait les cheveux, une autre personne différente qui a fait les textures, une personne qui a appliqué les effets sur les textures, c'est-à-dire l'aspect, les couleurs, c'est les textures, et les reflets, c'est encore une autre personne différente. Enfin, il y a vraiment individuellement, même si on réduit au minimum, 4, 5, 6 personnes différentes qui ont travaillé sur cet élément de la scène. Et je ne parle même pas du layout et de l'éclairage.
C'est ça, Captain America est passé entre plusieurs mains.
C'est ça.
Mais on a oublié un métier aussi très important, le rig qui permet de faire, parce que les personnages sont comme des marionnettes, mais les marionnettes, pour les animer, il faut des fils. Donc là, c'est le rig qui va s'en occuper, qui vont refaire un squelette pour que les animateurs puissent animer les différentes parties du corps, le facial, etc. Enfin, pouvoir donner toutes ces expressions et pouvoir animer correctement, quoi.
C'est-à-dire qu'effectivement, voilà. Ça, c'est une chose que les gens ne savent pas forcément. On a les os qui sont modélisés comme dans un corps. Quand on parle de personnes et de personnages animés, c'est beaucoup plus difficile à modéliser, évidemment, que des objets statiques qui ne bougent pas. Je ne sais pas, une voiture, une maison, ça ne nécessite pas d'animation aussi complexe, à moins de cas particuliers. Mais une personne, on va avoir les os qui vont être modélisés de manière réaliste ou plus ou moins réaliste. Et le rig dont tu parles, ça peut être un autre set d'ensemble d'eau ou d'éléments d'animation avec les fils que tu évoquais, des manettes qui vont pouvoir dire à tel moment, je vais pouvoir bouger cette manette et ça va orienter dans tel axe, tel os par rapport à tel autre os. Et exactement. Là où ça devient encore plus compliqué, tu parles des animations faciales, donc tout ce qui est musculaire, mais en particulier bien sûr dans le visage, il y a tout plein de petits éléments pour reproduire les animations du visage, les expressions du visage qui sont tellement complexes. Et ce travail-là de création des manettes qui permettent de modifier tout ça, c'est encore une autre personne qui le fait que tous les autres éléments sont créé sur ce modèle.
Exactement.
D'accord.
On a vraiment multispécialité. Pour un seul projet, on a plus d'une dizaine de départements qui ont chacun leurs tâches spécifiques. Donc vraiment, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, sur des longs métrages d'animation, on peut tourner sur des équipes entre 3 à 600 personnes pour un seul film.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mais du coup, comment vous faites pour que tout ça fonctionne ensemble? Parce que plein d'éléments différents, plein de personnes sur chaque élément, des scènes qui sont développées en parallèle, des étapes de travail qui évoluent tout en même temps. Les producteurs, ils doivent s'arracher les cheveux, en fait.
Il y a plusieurs corps de production. Sur un film, par exemple, il va y avoir des producteurs qui vont s'attacher, par exemple, à la modélisation, le surfacing, puis d'autres, layout, animation, et puis d'autres, lighting, d'autres, éclairage.
Ouais, donc, il y a des producteurs par département, par spécialité, quoi.
Oui. Si on peut, après c'est une question de budget,
mais bien sûr.
Il y a des on a fait des séries où il y avait une ou deux personnes pour toute la production, par exemple.
Ouais.
Donc là, ça leur fait beaucoup de boulot et de réunions, de choses comme ça, mais bon.
Et j'imagine qu'il y a des outils informatiques aussi qui aident à coordonner tout ça. Toi, quand tu changes un layout, Romain, dans une scène, ce changement est automatiquement reporté. Tout ça est en réseau. Pour revenir à la question tech, ce changement est automatiquement reporté dans la version, la vue qu'utilise Sylvain pour faire son éclairage, n'est-ce pas ?
Exactement, en fait. On
travaille tous sur le même matériel, finalement.
On est tous
on a une plateforme commune.
Ouais. On est tous branchés sur ce qu'on appelle un pipeline. Enfin, pour faire simple, il faut imaginer un énorme terminal où tous les départements sont connectés. Donc, si Romain met à jour sa scène, moi, derrière, automatiquement, je devrais récupérer sa nouvelle version de scène. Enfin, tout se met à jour automatiquement. Et pour coordonner ça de manière visuelle, on a un logiciel qui s'appelle Shotgun et qui est en relation directement avec ce pipeline pour justement, quand Romain finit sa scène, il le signale et moi, ça me met automatiquement en me disant, attention, voilà, Romain, tu as mis à jour telle scène, il faut que tu fasses une...
Que tu la recharges, ouais.
Voilà, exactement.
Et c'est la même chose pour toutes les assets, tous les modèles, tous les rigs. Quand quelqu'un a fini, il appuie sur le bouton upload, donc commit ou je sais pas, un truc du genre. Et puis, ça indique à tous les autres sur le projet, telle partie a été mise à jour, voulez-vous recharger ? D'accord.
Voilà. Par exemple, moi, quand j'ai fini un layout et qu'il est approuvé par le superviseur, par le réalisateur, etc., par tout le monde, hop, on appuie sur le bouton, c'est bon, c'est approuvé. L'animation sait qu'ils peuvent commencer ce plan à animer, quoi.
Et du
ils
coup,
savent que pour l'étape d'avant a été validée, donc ouais. C'est bon, on peut y aller sans problème.
Donc, il y a des outils, évidemment, de gestion de projet qui sont intégrés à tous ces logiciels ou à des logiciels tiers qui se connectent avec, de manière à ce que ça soit possible à gérer. On n'a plus tellement parlé de moi, du réalisateur qui est venu avec son super projet Rendez-vous Tech, le film. Mais j'imagine qu'il y a une collaboration, même pas juste régulière, mais constante avec le réalisateur. Et que peut-être qu'on en parlera quand on parlera des difficultés du métier, mais le réalisateur va tout le temps donner du feedback et dire... le réalisateur ou d'autres membres de l'équipe de création... dire « Ah oui, tel truc c'est bien, tel truc il le faudrait plus comme ci, plus comme ça, tel personnage, moi je le voyais plus comme ça. » Il y a un dialogue constant, quoi.
Constant, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est une communication, des échanges, des frictions aussi, forcément. mais on y reviendra après, apparemment. mais c'est bien, ça fait évoluer le projet, ça le fait vivre, quoi. Le projet est constamment vivant et constamment en modification, en changement et dans le bon sens en général.
En général. Est-ce que vous pourriez me raconter une journée typique, une de vos journées typiques de travail? Vous arrivez, vous vous posez à la machine à café, vous discutez pendant une demi-heure, une heure, des dernières news que vous avez appris dans le rendez-vous tech, tout ça, pour vous mettre dans l'ambiance hein, pour le film. Mais
bien sûr.
Comment ça se passe, la journée typique?
C'est une journée à problème. Voilà. Pour faire simple, ça va être une journée à problème. Et de toute façon, quand il n'y a pas de problème, c'est justement là où il y a quelque chose qui cloche. Pour faire plus simple, non, ça va dépendre un petit peu des spécialités. Par exemple, nous, dans le département lighting, donc le matin, l'équipe arrive. Première chose qu'ils vont faire, donc, c'est de regarder, de visionner les plans qu'ils ont envoyés sur la ferme de rendu la veille.
Parce que tu lances les rendus et tu les fais pendant la nuit et puis tu viens voir ce que ça a donné le lendemain matin, quoi.
En général, voilà, ils sont lancés tout au long de la journée, mais il y a quand même une partie, une grosse partie qui va être calculée la nuit. Donc du coup, voilà, la première étape, c'est ça. Voilà. Ils vont regarder leur plan chacun de leur côté, voir un petit peu s'il y a des choses qui ne vont pas et s'il y a des choses qui vont. Et en fonction de ça, donc, ils mettent à jour le statut de leur plan, soit pour que nous, derrière, en réunion, on puisse les visionner et leur dire « Ok, le plan, on le valide. Non, on ne le valide pas et tu corriges tel élément. »
D'accord.
Donc ça, voilà, c'est vraiment la première chose à faire. Puis après, il y a toute la journée de travail où ils vont ouvrir plan par plan et essayer de faire leur travail. Donc, c'est-à-dire loader l'éclairage et puis renvoyer les images en rendu.
Ouais, c'est vraiment le travail. Je dis pas à la chaîne, mais c'est un travail systématique, quoi. Tu prends ton feedback, tu corriges, tu crées des nouveaux trucs, tu prends ton feedback, tu corriges. C'est ce cycle, quoi, qui se répète tout le temps, en fait. Romain, t'es resté bien silencieux pendant cette...
Après, il y a toute la partie...
Ah, mais parce que je le laisse expliquer après la mienne de manière plus
synthétique. Pour la partie technique, voilà. Après, il y a tout aussi, tout, tout le côté artistique où bah, il va y avoir des plans qui vont être plus longs que d'autres parce qu'il y a certaines, on a certaines exigences à mettre en place au niveau de l'éclairage. Donc peut-être là, un plan, un personnage va être dans l'ombre, on va dire au lighter, on va lui dire bah, écoute, tourne un petit peu ton éclairage pour récupérer le personnage dans la lumière, ou celui-là bah, décale un peu la lumière pour justement le remettre dans l'ombre. Donc après, il y a quand même toute une partie artistique qui fait que bah, un plan simple peut devenir un plan très compliqué, et inversement, des plans qui paraissent très compliqués au final sont assez simples.
Tu peux nous donner un exemple de plan justement qui te paraissait simple à la base et en fait, pour telle ou telle raison, c'était devenu super complexe à mettre en place ?
Ben un plan, admettons, un plan tout simple, plusieurs personnages qui sont sous un arbre. Donc certains personnages vont se retrouver dans les ombres, d'autres dans la lumière, dans la percée de lumière. Et ben, les personnages, ils bougent. Donc des fois, ben, on se dit « Ah, ben, ça va être simple parce que c'est assez stable comme éclairage. » Mais le fait que le personnage se déplace au fur et à mesure du plan, et ben, du coup, il ne se retrouve plus dans la lumière et il faut le garder dans la lumière parce que... on a besoin de rester focus sur ce personnage parce que c'est lui qui va parler, c'est lui qui fait l'action, alors que d'autres sont peut-être que des personnages secondaires à ce plan-là, quoi. Donc là, toute la difficulté, c'est de... Voilà, l'éclairage, c'est aussi de mettre en valeur et de sublimer l'histoire. Oui. Donc, en fonction de ce qui se passe dans le plan, il faut adapter continuellement son éclairage.
D'accord, donc en fait, c'est l'éclairage lui-même se fait automatiquement parce que c'est pas que les feuilles, tu vas devoir toi-même faire passer les rayons de lumière à travers les feuilles de l'arbre, mais par contre, la prise de tête après, c'est que tu dis « Ah mais attends, si je place mon personnage ici et qu'il bouge comme ça, tout à coup il est dans l'ombre, on le voit plus, ça sert pas le propos de la scène, et donc il faut s'arranger pour déplacer Exactement. Les feuilles, déplacer le perso, changer l'animation ». D'accord.
Exactement. Bah, okay. À notre stade, on a le droit que de toucher, de tricher en fait avec l'éclairage. Voilà. Il faut savoir qu'on triche énormément puisqu'on ne peut pas s'amuser à déplacer le personnage ou le décor qui ont été mis en place par Romain. Et sinon, après, il va pas être content.
C'est-à-dire que
il va pas être content. Et puis c'est validé par le client. Surtout.
C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est que il y a un truc qui est validé et c'est pour ça que vous pouvez pas parce que. Du coup, ça change également l'intention de la scène. Toi, tu es dans ton domaine. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu rajoutes une source de lumière qui va quand même l'éclairer quand il est dans l'ombre C'est ça que tu veux dire en disant tricher ou qu'est-ce qui se passe ?
Quand, par exemple, tricher, ça peut être... on va avoir des plans qui sont cadrés au niveau de la taille. Donc, on ne voit pas le sol, on ne voit pas les ombres projetées. Et on va se permettre justement sur ce genre de plan... au lieu de garder la direction de l'éclairage comme elle est censée être, pour rendre le personnage un peu plus sexy, on va dire, on va se permettre de tourner un petit peu l'angle de
le déplacer,
de déplacer un peu la light ou de tourner un peu cet éclairage pour mettre un peu plus en valeur le visage ou par exemple placer une source d'éclairage qui simulerait le rebond du sol pour venir un petit peu réchauffer le personnage s'il se retrouve dans une partie ombrée. Il y a tout plein de techniques.
D'accord. Mais je comprends. Ouais. C'est-à-dire que tu vois pas les ombres portées parce que tu es à un plan un peu plus serré. Et du coup, tu mets une autre source de lumière et c'est bon, ça fait la blague. Allez, vas-y. Est-ce que... Moi, j'imagine qu'il y a des moments Exactement. Où... Il y a des moments où vous regardez entre artistes de lighting et vous dites hey, « Tu crois qu'on peut le faire ?»« Moi, allez, ça ne se verra pas. C'est bon, vas-y, ça passe.
» Ça va passer.
Ouais. Exactement. Donc, D'accord. Ça fait partie de la journée typique, voilà.
Et Romain, pour toi, est-ce qu'il y a des choses différentes ?
Alors moi, layout, nous, on est aussi garant des faux raccords, des non-faux raccords, justement. Donc, on va essayer de cadrer déjà, raconter quelque chose avec l'image. Il faut qu'on soit... On a des storyboards, mais ils sont des storyboards animés, mais c'est à nous de faire les mouvements de caméra les plus jolis possibles, etc. Avec une caméra, on peut raconter mille et une choses, montrer telle ou telle chose ou ne pas montrer. Donc, donner une impression de vitesse, donner une impression... Voilà, donc nous, on est garant de ça. Donc là, c'est vrai que moi, mon boulot en tant que superviseur, chef d'équipe, c'est justement de vérifier que mes artistes font bien les choses, que ce soit raccord avec le plan d'avant, le plan d'après, etc. Mmh. Donc, d'avoir une vision beaucoup plus globale, plus générale.
D'accord.
Voilà, donc, et de préparer aussi, de préparer les triches aussi, parce que nous, on triche énormément. On triche à tous les stades. Mais voilà, il y a des fois, il vaut mieux pas regarder ce qui se passe hors de la caméra quand on a des points de vue, par exemple, d'un personnage où on voit ses mains. C'est formidable, hein, on voit ses mains, etc. Mais si on regarde hors de la caméra, il a la tête complètement éclatée parce que la caméra est juste à la place de la tête.
Oui, d'accord, je crois. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui écoutent l'émission là qui sont dans le des codeurs ou des designers web ou ce genre de choses qui se disent mais bien sûr mais je fais ce genre de truc tout le temps moi aussi qui comprennent tout à fait. Ok, donc bon, on comprend que c'est vraiment énormément de collaboration. Il y a une expertise technique qui est importante, mais il y a aussi, j'ai l'impression, une collaboration permanente entre tous les départements et l'extérieur et le client qui sont essentiels. J'aimerais que vous me racontiez un petit peu en conclusion, on l'a un petit peu évoqué là encore, mais les difficultés de votre métier qu'on n'imagine pas forcément. Même avec tout ce qu'on a raconté, peut-être technique, on y a touché un peu, les difficultés de relation avec les clients. On a dit qu'on en parlerait peut-être un petit peu, si vous pouvez révéler certaines choses, de manière complètement anonyme, bien sûr. Et puis,
bien sûr.
Les plus grands plaisirs aussi de ce travail, ce que vous appréciez dans votre métier, et ce qui fait que vous faites ce métier plutôt qu'un autre. Donc, les difficultés et les plus grands plaisirs, je vous écoute.
Alors, difficultés, on a bien évidemment des difficultés techniques. Moi, en plus d'être
l'écran bleu... Pardon, tiens, je ne t'ai même pas demandé, ça tourne sous Windows, tous vos trucs, ou c'est Linux, ou c'est quoi?
Non, on est sous Linux.
Sous Linux, oui.
Nous, on est sous CentOS.
D'accord, donc pas de problème d'écran bleu, tout tourne très bien, vous êtes tranquille.
Ouais, à peu près.
On va dire que
disons que c'est des écrans d'une autre couleur. Non, okay, non, on n'a pas d'écrans bleus. On a de temps en temps des crashs, etc. C'est normal. On utilise beaucoup les machines, on les sollicite énormément. Mmh. On peut avoir des histoires de réseau, des problèmes de réseau aussi, puisque toutes les machines sont reliées en réseau, etc. Donc moi, comme je disais...
Oui, là, on a parlé... Excuse-moi, je t'interromps encore. On a parlé uniquement des métiers directement liés à l'animation, mais il y a évidemment tout plein d'autres métiers autour, et je suis sûr que les ingénieurs informatiques, les responsables de tout ce matériel, ont des grosses prises de tête aussi, parfois, quoi.
Oh que oui, justement, c'est là où je voulais en venir, parce qu'en plus d'être layout, je suis directeur technique junior, mais directeur technique quand même. Donc, du coup, je suis confronté en fait à tous les problèmes. Je fais partie d'une équipe qui répare tous les plans qui merdent, en fait. Donc, et souvent, il y en a beaucoup. Parce que problème technique, parce que entre les différents logiciels, entre les différents, les différentes manières de travailler, ça passe ou ça passe pas dans le pipeline. Donc, pour que l'image arrive, si tu veux, complètement terminée et nickel, impeccable, comme on avait voulu.
Mais c'est-à-dire que parfois, tu lances un rendu, ça ne fait pas le rendu, et il faut que tu ailles
regarder... Il faut savoir pourquoi.
Savoir pourquoi, de la même manière qu'on peut le faire avec n'importe quel outil informatique, mais ça peut être bien prise de tête, exactement, parfois.
C'est ça. Puis après, savoir si c'est à la modélisation que ça a merdé, au rig, à l'animation, est-ce qu'un artiste n'a pas fait une bêtise, appuie sur un bouton qu'il ne fallait pas, ou un truc comme ça, et puis c'est passé à son stade, mais deux stades après, deux départements après, ça fout le merdier, quoi.
C'est-à-dire que tu peux lancer un rendu en pensant que tout va bien se passer, et au final, quand tu regardes la première image, tu te rends compte que le bras est à l'envers ou l'œil est en dehors de la tête, ou ce genre de truc.
Ouais, c'est ça, et des fois même la première image ne sort pas du tout. Donc...
Exactement, oui. Des fois, d'accord, juste en chargeant nos scènes, on s'aperçoit que, on affiche la vue 3D, on s'aperçoit qu'il y a un personnage qui manque ou un bout du décor a disparu, ou bien la texture et la matière ne s'est pas mis à jour correctement, donc on ne se retrouve pas du tout avec les bonnes couleurs, etc. Enfin, il y a des problèmes, il y en a des... Il y a une bible de problèmes à faire. Hein. Ça serait...
Ça me donne des... Ça me donne des frissons, là, rien que d'y penser, ce genre de truc. Donc, effectivement, il y a beaucoup de problèmes techniques. Un truc un peu plus croustillant, des trucs avec les... Comme dans tout métier artistique, où on demande à un artiste de faire un travail pour un client, j'imagine qu'il y a forcément des moments où les choses ne se passent pas comme vous l'espéreriez. Est-ce qu'il y a des trucs typiques ? C'est pas, la question n'est pas d'avoir l'anecdote spécifique, encore que, si vous voulez, ça peut être marrant, mais des trucs typiques d'incompréhension entre un et l'autre côté ou les problèmes que vous pouvez avoir de manière récurrente dans ce domaine ?
Ben, par exemple, on peut avoir des clients qui n'ont fait que de la 2D. Donc qui ne voit pas en volume, qui ne voit que par que sur deux dimensions et du coup tu travailles pas de la même manière quand tu fais un dessin animé en 2D qu'un dessin animé en 3D. T'as d'autres d'autres problématiques. Et quand le client ne comprend pas ces problématiques et veut un truc qui est facile à faire en 2D mais qui en 3D va poser beaucoup de problèmes ou en tout cas beaucoup de challenges, c'est là où il peut y avoir une incompréhension où le client va dire bah on peut le faire ça en 2D, regardez quand je dessine. Oui, mais non, mais là en même temps là il va rentrer dans la table. En 2D vous pouvez le faire passer derrière la table, mais là la table elle est énorme, donc c'est soit il passe au travers, soit il fait un grand tour et ça fait rallonger le plan, enfin voilà ce genre de choses. C'est des fois, ça peut des fois être prise de tête et
ça peut être très compliqué. Oui, enfin moi dans la partie éclairage ça nous est arrivé, en petite anecdote, voilà, marche arrière complète sur un set d'éclairage. On est parti sur le client voulait telle ambiance et puis finalement après avoir passé plus de 30 heures à monter le set d'éclairage, à avoir mis ça en place pour l'équipe qui rend une séquence de 30 ou 40 plans, et le client s'aperçoit qu'au final ce n'est pas ce qu'il voulait, il fait une machine arrière, il ne voulait plus de la nuit, de l'ambiance nuit, il veut de l'ambiance coucher de soleil, minuit. Et donc là en fait après c'est de trouver un compromis pour éviter de tout refaire et aussi satisfaire le client, puisque le client reste quand même roi.
Ouais, c'est quand même le but, quoi. Mais j'imagine que...
C'est pas évident, ouais. C'est vraiment pas évident.
C'est comme dans tous ces métiers, comme je le disais, il y a parfois des clients qui se rendent pas compte du travail qu'implique un changement ou une directive et qui du coup disent « Ah bah, non mais je veux juste le faire en bleu, quoi ». Et qui se rend pas compte qu'il y a tous les trucs qui se cascadent derrière.
C'est voilà, où une fois l'image rendue, compositée aussi, parce qu'il y a les compositeurs qui viennent mettre toutes les couches et mettre la dernière couche de vernis. Puis une fois que tout est sorti, ils disent, le client va dire, ah ben finalement, l'animation, est-ce qu'on peut la changer? Et là, on dit non, ça a été validé comme ça depuis le début, ça fait deux mois que c'est validé, non, on ne peut pas revenir, ou alors ça va vous coûter cher. À ce moment-là, on peut le faire,
tout est
refaisable, mais par contre, ça va demander du temps, donc de l'argent.
Et heureusement qu'on a toute l'équipe de production...
De production qui va gérer
voilà,
tout ça.
Qui gère toute cette partie politique, partie politique avec le client, justement, pour lui dire attention, là, à ce moment-là, à cette étape-là, vous voulez changer ça, d'accord, c'est pas impossible. Par contre, bah, ça nécessite de reprendre ça, et ça va coûter tant en heures de travail, etc. Et voilà, c'est tout un.
Ouais. C'est un peu comme un enfant capricieux, des fois. Tu lui dis, t'es sûr que tu veux ça ? Je te parle, parce que je sais que tu veux ton petit, etc. Moi, j'ai des enfants aussi. T'es sûr que tu veux ce jouet-là ? Tu es sûr de toi ? Tu vas pas le regretter ? On est obligé de faire ça un petit peu avec le client, sans l'infantiliser, bien évidemment. Mais voilà, pour être sûr du choix, pour ne pas avoir à revenir en arrière, parce que ça coûte beaucoup de temps et d'énergie.
C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte. Peut-être que, là, je pense que les auditeurs l'auront bien compris, il y a une cascade de différents travaux qui dépendent des uns des autres, même si on peut travailler en parallèle. Mais peut-être qu'on imagine que le changement d'une animation peut se faire de manière indépendante, sans avoir de conséquences sur le reste de la chaîne. Mais dans la réalité, si tu changes l'animation, il faut peut-être revoir ensuite, enfin, je sais pas moi, l'animation des vêtements également, des cheveux, l'éclairage va être différent, etc., etc. Et donc, changer un élément, tous ces éléments, ça peut pas se faire en isolation. Donc, c'est pas juste tu changes l'animation et puis tu relances le rendu et basta. C'est qu'il faut revoir parfois, une certaine mesure de toutes les étapes de la chaîne, quoi.
Ça arrive de temps en temps, dans un jour de chance, où on peut changer un petit élément sans tout refaire, mais c'est très rare. Ces jours-là, on sort le champagne.
Ouais, du coup, il n'y a pas un petit truc un peu croustillant de problème avec un client que vous avez eu qui serait marrant à raconter? Si vous pouvez me dire non, hein, y a pas de souci, c'est déjà beaucoup d'informations que vous avez données.
Bon, là, je pense qu'à notre niveau, à nous, je pense qu'on a pas assez de recul avec le client pour avoir d'anecdotes assez croustillantes. Je pense que
c'est la production qui fait écran devant vous en fait et qui vous permet de travailler dans la sérénité sans avoir à vous soucier de ce genre de choses, quoi.
Exactement.
Et qui peuvent nous dire, oh, le client, il est pénible, ou le client, il est cool, etc. Non, en plus, on a travaillé, on avait travaillé sur une série qui s'appelle Mon Chichi, et on avait la collaboration avec le Réal. Moi, j'étais en direct avec le Réal assez souvent, une fois par semaine ou deux, et c'était un régal de travailler avec lui. Je lui disais, là, par exemple, ça ne va pas être possible, est-ce qu'on peut changer? Ah, mais oui, bien sûr, ah, très bonne idée, etc. Donc, voilà.
C'est aussi, il y a des fois où ça se passe bien aussi, quand même.
Oui, bien sûr. En majorité, ça se passe bien. On va pas se plaindre. Non, c'est vraiment un travail collaboratif et aussi bien avec le client qu'avec les gens des différentes équipes. Et c'est vrai que c'est aussi, tu demandais les avantages, les plaisirs.
Les plaisirs, les plaisirs que vous avez dans ce boulot.
C'est ça, c'est de travailler avec des gens sympas, décontractés aussi, parce que là, on est en short et en t-shirt et on peut même se balader pieds nus dans le studio, on n'est pas en cravaté. et puis les gens sont cool quand même. Voilà, on a tous ce côté artistique et technique, on a tous cette envie de bien faire, même si c'est pas notre produit à nous, mais en tout cas c'est à 100%, mais en tout cas c'est notre bébé, quoi. Voilà. Et tous, on vient apporter sa petite pierre à l'édifice pour faire le mieux possible et faire une production. Ouais.
Donc le plaisir d'avoir un travail artistique, comme je parle souvent de, entre guillemets, ces métiers, vous êtes dans une certaine proportion artistique et un petit peu de commercial puisque vous travaillez pour un client, c'est pas juste le truc que vous avez envie de faire, mais vous pouvez combiner les deux et au final, vous avez une œuvre qui est collaborative dont vous pouvez être fier. Est-ce que c'est ça le moment dont vous retirez le plus de plaisir? C'est quand c'est bon, c'est validé, c'est terminé, vous dites, on a tous bossé ensemble et on a fait ça, quoi. C'est nous qui l'avons créé.
Satisfaction, oui. Sincèrement, c'est la satisfaction de découvrir à l'écran, que ce soit pour un film long-métrage ou de la série d'animation, c'est de découvrir à l'écran le résultat de tous ces efforts, de toutes ces heures de travail.
D'énervement.
D'énervement à rude épreuve, les moments de rigolade, etc. Enfin, il y a tout ce condensé qui nous revient à la figure en regardant les images. Et il y a une vraie satisfaction. Voilà, vraiment, c'est la sensation, le sentiment d'avoir accompli quelque chose qui...
Collectivement,
qui n'aura pas le même impact visuel selon la personne qui va le regarder. Un enfant de 5 ans comme une personne de 20 ou 30 ou 50 ne verra pas les images de la même manière. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans notre métier, c'est d'avoir des interprétations différentes par rapport à ce que nous, on a pu mettre dans nos images au moment où on les a faites.
Alors, une petite anecdote, si tu veux, très rapidement, parce que je pense qu'on est un peu limité par le temps. Là, on est en train de faire, par exemple, une série avec Glenn Keane, qui va sortir sur Netflix au mois de novembre. Donc, Glenn Keane, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Patrick ?
Non, je suis désolé.
Alors, Glenn Keane, c'est un ancien de chez Disney qui a travaillé des années à Disney, qui a, par exemple, créé Pocahontas, La Petite Sirène, qui a été directeur d'animation sur Réponse. Je ne sais pas si tu avais vu, ou si les auditeurs ont vu le court-métrage qui avait eu un Oscar sur le basket, Dear Basketball, Kobe Bryant. Bref, c'est un dieu de l'animation qui fait une série avec son fils et qui nous l'a confié. Et on a fait le premier épisode. Une fois que le premier épisode a été complètement créé, monté, on l'a projeté avec lui. Et tout le monde l'a vu un petit peu pour la première fois en entier avec Glenn Keane et son fils Max Keane. Et quand ils ont vu cette réalisation, ça fait, je ne sais plus, un paquet d'années qu'ils y réfléchissent, qu'ils travaillent dessus. Et quand ils ont vu le résultat, une fois que l'épisode a été projeté devant tout le monde, ils sont retournés, ils avaient les deux les larmes aux yeux.
Oh.
Et là, il y a eu une émotion sur les 250 personnes qu'il y avait dans la salle de voir... que des gens comme ça, et surtout Glenn Keane, qui est quand même un vieux de la vieille, voilà, c'est comme si on disait Spielberg, ou, voilà, et qui est autant d'émotion et de joie en lui, voilà, de tous ces sentiments-là, il y a eu une espèce de truc complètement incroyable. Donc voilà, c'était... voilà, c'est aussi pour ces petits moments de bonheur qui... l'accouchement de la série, et que tout le monde est ravi, quoi.
Ça symbolise un petit peu le plaisir, effectivement, de ce métier. Ok, super. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un bon petit tour, un panorama de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant qu'on se quitte ? Et je vous donnerai bien sûr l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver, mais juste sur tout ce dont on a discuté, sur vos métiers, une chose qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer.
Plein de métiers que les gens ne connaissent pas dans le cinéma d'animation, entre autres, et dans les effets spéciaux. Et faut aller fouiller, faut aller gratter ces métiers-là si vous avez un peu une fibre artistique, parce qu'il y a plein de métiers et de demandes en plus. Donc, faut pas hésiter, c'est des métiers de l'ombre dont on ne parle pas, donc on ne sait pas. Voilà, et c'est des métiers formidables.
D'accord. Donc, tu veux dire même des métiers dont on n'a pas... On n'a pas parlé.
Dont on a pas évoqué, oui.
Ouais, tu peux nous dire juste comme ça pour les noms des métiers en question, deux ou trois auxquels tu penses.
Bon, CFX artistes, c'est des personnes qui sont en charge de mettre en place la simulation de tout ce qui est vêtements. Donc
voilà, clothes FX, c'est ça.
Exactement. Donc ouais. C'est des gens qui mettent en place des simulations par rapport à l'anime des personnages pour faire bouger tel ou tel vêtement en fonction de qu'est-ce qu'est le vêtement, un pull, une chemise, etc. Donc c'est un vrai métier, un vrai vrai métier.
Rien que d'animer important. Des vêtements. Ouais. On n'a pas parlé de l'audio, mais...
compositeurs, etc. Oui, de l'audio aussi.
Bien sûr, ouais.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Et justement, si on veut en savoir un petit peu plus, d'une part, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous tous les deux ? Est-ce que vous êtes sur Twitter ou est-ce que vous avez une présence en ligne ? Bien sûr, tu peux évoquer le podcast que vous faites également.
Bah, c'est ça.
Dites-moi tout.
Notre présence, elle est surtout là au podcast. On a un podcast donc, qui s'appelle CGY, C-G-W-H-Y, où on va justement parler, rentrer dans le détail de ce qu'on vient, de tout ce qu'on vient, ce dont on vient de parler. Donc on va, on est en train de finir toute une partie d'interview de quasiment tous les métiers, justement, où on a des discussions d'une heure et quart avec des gens, des professionnels de chaque métier, de chaque département. Et puis après, toutes les problématiques qu'il y a, dans ce podcast, on a des discussions très, très intéressantes, très enrichissantes. Après, plus orientées métiers, mais les curieux peuvent venir écouter.
Moi, je pense que c'est un podcast qui résume bien notre métier, voilà, où là on s'est vraiment attaqué à toute la chaîne de production, comme dit Romain, avec un interview pour chaque spécialité, avec un invité de la spécialité, et puis après on partira sur des émissions un peu plus thématiques, parce qu'il y a tellement de sujets, par exemple l'intermittence, puisque nous sommes des intermittents du spectacle, il faut pas l'oublier. Donc j'encourage vraiment pour les confirmés ou les novices dans le monde de l'animation, de découvrir le podcast CGY, vraiment.
Ça... Eh ben, je mettrai...
Sur les réseaux sociaux, on est @CGYpodcast.
Exactement.
Voilà. Vous nous retrouverez un peu partout.
On est assez, assez présent. Ouais.
Super. Donc, je mettrai le lien du podcast dans les notes de l'émission et le lien vers le compte Twitter CGYpodcast. Super. Donc, vous n'avez pas de compte Twitter personnel. Très bien. On mettra celui du podcast.
Celui du podcast, oui.
Impeccable.
D'accord.
Ouais.
Super.
Merci beaucoup.
Eh ben, merci à tous les deux beaucoup du fond du cœur d'avoir partagé un petit moment avec moi et avec les auditeurs. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur patreon.com/rdvtech si vous voulez soutenir l'émission. Le lien est également dans les notes de l'émission, juste sous votre doigt en ce moment. Si vous voulez soutenir, ça prend 2 minutes. Vous allez sur le site, vous choisissez la somme que vous donnez et c'est terminé. Ça prend vraiment un instant. Donc, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Évidemment, si vous voulez voir mes images de l'été, c'est sur Instagram que ça se passe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. De quel type ? Vous le découvrirez la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Romain. Merci Sylvain. Ciao, ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.